Le site d'information nextimpact.com a lancé un crowdfunding pour proposer une version papier. Avec une année de retard, le voici enfin livré. Un contenu épais avec un retour sur les 15 ans de loi sur le numérique prouvant qu'Internet est une zone de non-droit, pourtant extrêmement bien régulée. Les dessous de la redevance copie privée qui vont jusque dans nos bras taxer nos disques durs et nos smartphones. Une histoire de Windows pour ceux qui n'ont jamais connu les glorieuses heures de l'empire Microsoft. Et une galerie de portraits, 8 Français qui chacun façonnent Internet à leur manière. Et pour parler de cette aventure, nous recevons par satellite David Legrand, directeur des rédactions chez Next Impact, responsable du groupe de travail déontologie et publicité au SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, DPO des internautes avec Qui me traque et rien à voir avec le champion français de Lucha Libre. CPU, carré, petit utile. David, qu'est-ce qui t'est arrivé le premier dans les mains ? Un ordinateur ou un magazine informatique ?
Je crois que c'est un ordinateur. Après, ça dépend de la définition que tu as d'ordinateur, mais moi, c'était un CPC 464 avec cassette à l'époque.
Donc, c'était déjà un ordinateur. Il n'était pas en kit.
c'était pas un PC au sens commun du terme, on va dire. Mais...
Ah, j'ai dit ordinateur, j'ai pas dit PC. Jusque dans les années 90, ces journalistes qui parlaient d'informatique étaient de vrais hobbyistes convertis par hasard vers la presse. Ou des fois des journalistes qui sont vraiment mordus d'informatique. Quel est ton ressenti maintenant ?
C'est compliqué à dire. Je connais pas beaucoup de journalistes qui se sont lancés récemment. Parce que maintenant, quand tu te lances dans la presse numérique, avec la définition large qu'on accorde à la presse numérique désormais, tu deviens plutôt influenceur ou youtubeur, ce qui ne veut pas dire que tu fais pas forcément le boulot d'un journaliste, mais ce qui peut avoir des mécaniques un peu différentes. Moi, quand je me suis lancé, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé sur un CPC 464 à cassette, j'ai toujours eu un ordinateur dans les mains. La plus grande partie de ma journée, j'ai passé des heures quand j'étais jeune à décortiquer le guide de MS-DOS 5. Ça a toujours été une grande passion pour moi, et en fait il y a une image que je diffuse de temps en temps qui est assez marrante. C'est quand j'avais une dizaine d'années à l'école, on m'avait demandé de me définir à 25 ans en une image, et j'avais pris une photo d'un informaticien dans une salle pleine d'ordinateurs, et j'avais collé ma tête dessus. Voilà. Et en fait, j'ai toujours voulu faire quelque chose en relation avec les ordinateurs, voilà, quand j'étais jeune. Et je pense que je suis arrivé à la presse numérique comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait plutôt des études d'électrotechnicien au départ, parce que ça me permettait de toucher à différents corps de métier. Mais je voulais faire de l'informatique. Et je suis arrivé dans la presse parce que, à l'époque, Internet était en pleine croissance dans les foyers. Moi, j'ai commencé avec vraiment les débuts, c'est-à-dire que je me connectais dans un Darty derrière où j'habitais chez mes parents. Je connaissais tous les vendeurs avec un ami, et ils nous laissaient toucher aux ordinateurs. Ils étaient un peu fous. Et à l'époque, on se connectait avec la connexion Internet du magasin. On n'avait que ça pour accéder à Internet. Avant qu'on puisse avoir chez nous, dans mon premier appartement avec les connexions AOL illimitées. Et en fait, on a commencé à communiquer avec des gens là-dessus, et on a fait des sites. Forcément, moi, je me suis tourné assez rapidement vers des sites de passionnés d'informatique. J'ai commencé à m'engager sur un site qui s'appelait Multi Hardware à l'époque. Ensuite, arrivé Impact Hardware. La volonté d'être journaliste, elle est venue avec la professionnalisation du site. C'est-à-dire que au début, c'est ce que je dis un peu dans l'intro du magazine, c'est on voulait partager une passion et on voulait le faire bien. Et en fait, on s'est rapidement dit que s'il fallait le faire bien, il fallait le faire en cherchant à informer, quoi. C'est-à-dire que actuellement, on se moque souvent des gens qui disent « Ah, la passion, tu sais ». Je pense qu'on a tous cette passion-là, mais il faut aussi savoir différencier ce que je dis souvent, la communication de l'information, c'est-à-dire on peut partager une passion, mais on peut aussi avoir un regard critique. Et je pense que c'est quelque chose qui manque souvent actuellement, et c'est dommage.
Comme le dit la chanson, est-ce que tu as la carte ?
La carte Kiwi.
La carte de presse professionnelle.
De quoi ? Non, j'ai pas la carte de presse.
D'accord.
À titre personnel. C'est le cas d'autres membres de la rédaction, mais moi je ne l'ai jamais demandé.
Quand a commencé l'aventure PC Impact ?
C'est pas l'aventure PC Impact au départ. C'est-à-dire qu'on a un site qui a une première passion, c'est celle de changer de nom. On l'a fait plusieurs fois. à travers notre époque. On l'a même fait un 1er avril en faisant croire à nos lecteurs, tels de gros méchants qui ont changé de nom en 1er avril, et en fait c'était vrai. Mais non, l'aventure a commencé dans les années 2000, donc après plutôt la première vague de la bulle, la fameuse. Donc on est arrivé à un moment donné où l'informatique était quand même déjà un minimum mature dans les foyers.
Où déjà il y avait une très bonne presse, il y avait transfert.net et enfin.
Oui voilà, alors il y avait déjà une presse papier qui était déjà très active. Maintenant c'est vrai qu'on était jeunes. Enfin, moi j'ai pas honnêtement, pourtant j'ai toujours été un grand lecteur, mais j'ai pas de gros souvenirs de presse papier informatique. Alors j'ai quelques souvenirs de lecture de SVM ou de ce genre de magazine dans mes années lycée, où ça m'arrivait de temps en temps de feuilleter des magazines, mais j'ai jamais été un gros client de presse papier, même à ma jeune époque. Je me suis toujours renseigné plutôt par internet. Alors après c'est peut-être c'est un biais tout à fait personnel, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais trop fait. Alors bon, bien entendu, quand on voulait certains logiciels ou ça m'arrivait d'acheter des magazines avec des CD, parce qu'à l'époque pour s'échanger les logiciels on passait beaucoup par des CD. Donc j'ai quand même eu une période avec ça, mais j'en ai pas gardé de souvenirs particuliers. Mais c'était quoi la question?
sur l'aventure de PC Impact.
Ah oui, l'aventure. Excuse-moi, tu pourras le couper ça par contre.
Non, pas du tout.
L'aventure Impact Hardware, elle est née donc dans les années 2000. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé sur un autre site qui s'appelait Multi Hardware à l'époque, et ça a commencé comme toute aventure collective, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés autour d'une volonté de partager sur l'information, sur le numérique, enfin sur ce qu'on appelait plutôt à l'époque l'informatique, et surtout sur les composants matériels, parce que à l'époque notre grande passion c'était ça, c'est-à-dire de monter, démonter des ordinateurs à une époque où c'était déjà assez simple, hein, mais parce que c'était à la portée de gamins de 15 ans, parce que c'est ce que j'étais à l'époque. C'était déjà commun. Il y avait déjà des, moi j'habitais à Nancy à l'époque, il y avait déjà plusieurs magasins d'informatique. On pouvait facilement acheter des composants. C'était pas du tout comme plutôt dans les années 90 où c'était un petit peu plus compliqué. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé sur un site qui s'appelait Multi Hardware. On était une bande de passionnés. On se connaissait surtout par internet, même si ça m'était arrivé d'en rencontrer quelques-uns physiquement. Et puis il est arrivé ce qui se passe sur la plupart des œuvres collectives bénévoles, c'est-à-dire que certains ont eu un travail, certains ont eu un peu moins de temps, et moi je me retrouve un petit peu tout seul à gérer pas mal de choses, ce qui veut pas dire que j'étais le seul à agir, mais sur la partie rédactionnelle en tout cas c'était ça. Et à cette époque-là, Christophe Nau, qui est le fondateur d'Impact Hardware et donc désormais le gérant d'Impact Media Group, qui est la société qui édite notamment Next Impact, m'a proposé de rejoindre l'équipe qu'il avait constituée pour Impact Hardware. Elle m'avait semblé plus active et donc du coup j'ai sauté le pas. Bon, il m'a dragué un petit moment avant, mais j'ai fini par céder, et donc j'ai rejoint à l'époque Christophe, Neil Sanias, qui était chez dans une époque et qui était déjà là, et ça a commencé comme ça. Et c'était juste un transfert d'un site. Se passe dans les structures bénévoles souvent ce qui se passe aussi dans les grandes structures privées, une espèce de concentration avec le temps, et au fur et à mesure que les choses se délitent pour certains, elles se renforcent pour d'autres, et donc voilà, et donc ça a commencé comme ça. Et à l'époque c'était un site bénévole où on faisait ça sur du temps libre. Moi, c'était en 2000-2001 pour ma part. J'avais 18-19 ans. J'étais en plein dans mes études de BTS électrotechnique. Donc, je faisais ça vraiment sur mon temps libre à côté. Donc, voilà.
Il y a eu, à côté de PC Impact qui est devenu Next Impact par la suite, le site Les Liens Idiots du Dimanche, un comparateur de prix, l'outil d'analyse tracking qui me traque. Est-ce que Pure Player s'est changé plus vite en fonction de ce qui arrive sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux?
Alors,
outre le fait qu'on n'est plus limité au nombre de caractères par page.
Tu mélanges différents projets qui ont des natures assez diverses. C'est-à-dire que, par exemple, le comparateur de prix est né avec PC Impact, qui a été en fait la naissance de notre site en tant que société. Impact Hardware a été créé en 2000-2001. L'équipe l'a rejointe dans les deux premières années. En 2003, on a vu le potentiel que ça pouvait avoir d'en faire un métier et d'en faire un média. Et donc, on a créé PC Impact à cette époque-là, qui a donc remplacé Impact Hardware à l'époque, qui est devenue une société commerciale. C'était une SARL de presse et on l'a créé comme tel dès le début. pour le modèle économique, on s'est tout de suite posé la question de ce qu'on allait faire. On a bien entendu misé sur la publicité à l'époque parce que c'était le seul moyen de rémunérer des sites et à l'époque, bon, c'était un moyen assez courant. Il n'y avait pas de pistage, il n'y avait pas toutes ces problématiques-là. Il y avait plutôt des problématiques de bannières qui clignotent et qui prennent la moitié de la page, mais.
Ou des trucs en flash qui font du bruit derrière. Coucou, Anadou.
Oui, flash était pas encore le plus gros problème, mais effectivement, enfin, c'était plutôt du GIF clignotant et éventuellement du son, quoi. On est encore dans les années kitsch, un petit peu. Mais effectivement, on avait le modèle publicitaire qui était là, et puis on s'est aussi dit qu'il fallait éviter de tout mettre dans un seul panier. Et donc, le comparateur de prix est né, prix du net à l'époque, est né à ce moment-là. Donc dès les débuts du site en fait, en tant que société. Donc on est né là-dessus. Enfin, à travers le temps, ça se passe. J'en parle dans le magazine. On a dû apprendre à évoluer avec les périodes. La publicité a été bloquée. Ensuite, il y a toutes les dérives du pistage, de la publicité native, ce genre de choses où on a dû se positionner. Il y a aussi eu, on a eu d'autres comparateurs qui sont sortis depuis. Tu parles par exemple de Kimetrack et Alidd. Honnêtement, sur Alidd, on n'a jamais eu de vocation de modèle économique, que ça soit à l'époque où c'était intégré au site ou où ça a été externalisé dans un site tiers. Kimetrack, c'est pareil. En fait, Kimetrack, c'est pas vraiment un projet d'Impact Media Group. Hein. C'est moi qui m'ennuyais pendant mes vacances de Noël il y a 2-3 ans, je crois, et qui a développé ça. Et j'en ai fait un article sur le site pour expliquer comment je l'avais conçu et comment les gens étaient pistés. Et ça a donné une suite d'articles sur ce sujet, parce que ça reste un de nos sujets phares. Mais c'est vraiment un projet qui est plutôt personnel et dont on n'a jamais, pareil, rien fait de commercial. Ça aurait été assez ironique d'ailleurs. Et voilà, mais à côté de ça, on a aussi l'abonnement et tout, et d'autres éléments qui ont participé à d'autres modèles économiques. Maintenant, quand tu me demandes si être un pure player, c'est s'adapter, j'ai pas l'impression qu'une société qui soit pas un pure player ait pas besoin de s'adapter au temps qui passe, quoi. Effectivement, quand t'es sur un magazine papier, t'as un modèle économique qui se diversifie moins, mais regarde ce que font des magazines papier, ils font des conférences, ils font des événements. Enfin, voilà, il y a toute une diversification qui se fait aussi. Tu prends de gros médias, ils n'existent pas uniquement à travers le journal papier ou en ligne qui diffuse. Donc, je pense que tout le monde se pose cette question et il faut toujours éviter de dépendre d'une source unique de revenus, parce qu'à travers le temps, elle peut se faner, elle peut changer. Maintenant, comme tu le soulèves, il y a un point qui est assez important en ligne et qui n'est pas important que pour la question du modèle économique, même si tout est toujours lié à ça. C'est la dépendance. Alors, tu dis à Google, moi j'ai plutôt tendance à dire au point de concentration d'internautes, parce que Google, c'est l'endroit où les gens vont chercher, c'est l'endroit où les gens vont chercher de l'actualité, mais tu vois la même chose se produire et c'est là aussi où certains médias et où on doit s'adapter. Ce qui faisait l'audience il y a quelques années, c'était avoir un bon flux RSS et être bien référencé dans Google. Maintenant, c'est bien d'être référencé dans Google News, dans la mise en avant des articles dans Chrome, dans Apple News, sur Facebook, sur Twitter, éventuellement faire partie de la catégorie mise en avant dans Snapchat pour les actus. Donc, on a diversifié les plateformes, mais la problématique est toujours la même. Les gens ne vont pas sur une diversité de médias tous les jours. L'homme est grégaire, ils vont sur des plateformes où ils se retrouvent, et donc c'est aux médias de s'adapter pour être présents sur ces plateformes. Ce qui pose une question, quels sont les médias qui sont présents sur ces plateformes, qui sont mis en avant sur ces plateformes, et qu'est-ce qui fait un succès? Malheureusement, on a vu à travers le temps et à travers que ça soit les réseaux sociaux, que ça soit Google ou Google News à une époque, c'est pas l'information de qualité qui fait que t'es mis en avant, c'est le fait de faire un bon titre, d'avoir un bon référencement. Donc c'est pas forcément d'avoir des bons journalistes, c'est des fois d'avoir des bons développeurs et un esprit parfois vif qui nécessite pas forcément une bonne colonne vertébrale niveau valeur, mais plutôt savoir appâter les robots et les algorithmes, ce qui est partie des problèmes de l'info depuis quelques années.
Et d'ailleurs, pour réagir à la montée des bloqueurs de pub, vous avez mis en place des abonnements. Vous avez créé un site il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, il me semble, qui s'appelle lapresselibre.fr. Oui. Où c'est que ça en est?
Juste pour revenir sur un point, on n'a pas mis en place les abonnements pour lutter contre les bloqueurs de pub. Ça s'est fait de manière un petit peu différente. Nous, la problématique des bloqueurs de pub, souvent elle apparaît comme nouvelle, ou en tout cas dans les médias, ils ont l'impression que ça a quelques années. Moi, je le rappelle assez souvent, chez nous, ça date à peu près de 2003-2004, hein, la question des bloqueurs de pub dans nos colonnes. Parce qu'assez rapidement, comme je disais, on a vu que on était sur un modèle publicitaire et arrive ce qui se passe à partir du moment où tu as une bande de commerciaux qui s'occupe de quelque chose, bon, même s'il y a de bons commerciaux, je les salue au passage, tout le monde fait n'importe quoi. À partir du moment où tu peux faire de l'argent avec quelque chose qui se démultiplie à l'infini, c'est-à-dire de l'espace, enfin des pixels en ligne, tout le monde se dit cool, je vais en mettre plein et ça va être génial et je vais augmenter mon chiffre. Ce qui est une approche qui peut se vérifier mais qui est assez court-termiste et on a vu assez désastreux sur le long terme. Et donc c'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tous les sites ont abusé des bannières, ensuite ont abusé, comme tu le disais, de flash, des flashs transparents qui se mettent en plein milieu d'un site et que tu mets 10 minutes à retirer, ce qui a posé des problèmes quand on est passé en mobile, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, les abus publicitaires sont nés, mais nous, assez tôt, on a vu quand même des lecteurs utiliser des bloqueurs de publicité en flèche. Et en fait, on avait des lecteurs qui, déjà, à l'époque, nous envoyaient des chèques tous les ans pour nous dire, voilà, je bloque.
Ah, pas mal.
C'est véridique. Alors, ça n'arrivait pas énormément, mais on avait quelques lecteurs qui nous envoyaient des chèques et qui nous disaient, voilà, je bloque les publicités chez vous, je me sens pas très bien par rapport à ça, et donc, du coup, je préfère vous envoyer un chèque. Alors, on pouvait pas forcément l'encaisser, parce qu'il n'y a pas de service équivalent. Quand on a commencé à réfléchir, effectivement, à un modèle économique sans publicité et, assez tôt, parce que je crois que de mémoire, ça devait être dans les années 2006-2007 qu'on a commencé à se poser ces questions-là. Et en fait, est arrivé à une époque le déréférencement de notre comparateur de prix par Google. En fait, Google se préparait à lancer Google Shopping et s'est dit « Oh tiens, c'est tous ces comparateurs de prix en ligne, c'est vraiment nul comme site, du coup je vais les déréférencer ». Et donc on a pris un coup important dans la tronche, hein, parce que on a perdu une bonne partie de notre chiffre d'affaires qui dépendait à l'époque du comparateur de prix, comme une partie des gens qui venaient sur le comparateur de prix, une partie importante venait de Google. Bah, le fait que Google trouve que les comparateurs de prix c'était devenu nul, sauf Google Shopping qui a toujours été assez bien mis en avant, et ben on s'est retrouvé avec une perte de revenus sèche d'un coup. Et c'est quelque chose qu'on avait assez peu anticipé. Bon, ça nous a servi pour la suite, mais du coup on a perdu énormément de revenus et on a dû s'adapter. Et en fait, c'était une époque où on avait renforcé l'équipe, on avait lancé un site de jeux vidéo, et donc la première étape, ça a été de fermer assez rapidement le site de jeux vidéo en question, qui s'appelait Impact Virtuel. Et ensuite, on a dû continuer à licencier, cette fois dans l'équipe de Next Impact. Je crois qu'il y a 3 personnes qui avaient été licenciées pour raisons économiques à l'époque. Et c'est à ce moment-là où, en fait, on s'est retrouvé à licencier des gens et à devoir payer ces licenciements, parce que c'était des licenciements économiques. Mmh. Et donc, il fallait, en plus, comme on avait recruté.
Pour gérer des gens en France, il faut sortir encore plus d'argent, évidemment. Alors,
tu me feras pas regretter ça. Je reste, comment dire. J'ai une sensibilité assez, assez forte sur le fait que c'est aussi bien d'accompagner les gens qu'on doit licencier. Mais, dans tous les cas, en fait, on était face à un double problème. C'est-à-dire que on avait décidé d'embaucher des journalistes. La convention collective des journalistes est assez protectrice, notamment en cas de licenciement et d'indemnité de licenciement. Donc qui valait qu'on verse. Et ensuite, comme c'était une procédure, alors j'ai pas tous les détails parce que c'est pas moi qui me suis occupé de l'administratif en tête, mais comme c'était une procédure de licenciement économique à l'époque, il fallait qu'on paye à l'URSSAF aussi toute une partie des indemnités assez rapidement à un organisme public qui nous demandait de l'argent, et c'est de l'argent qu'on n'avait pas en caisse. Et donc du coup est arrivé le besoin de financement. On est allé voir la banque pour leur dire voilà, on a une mauvaise passe, qu'est-ce qu'on fait? Et la banque nous a répondu ce que font très bien les banques par contre, c'est-à-dire écoutez, si d'un coup il y a de l'argent qui apparaît sur votre compte, on veut bien vous accompagner, mais si vous n'êtes pas capable de rentrer de l'argent en trésorerie très rapidement, on ne pourra pas vous prêter d'argent. L'argent crée l'argent partout. Et donc, pour faire ça, en fait, on a accéléré le projet qu'on avait de faire un abonnement, et on a lancé les abonnements premium à cette époque-là. Je crois que c'était fin 2009, si mes souvenirs sont bons. Et on a demandé aux lecteurs de nous soutenir en leur expliquant la situation. Et on a lancé donc des abonnements à 35€ par an, et on avait rentré, je crois, 100 000€ dans les caisses suite au lancement de l'abonnement, ce qui nous a sauvés à l'époque. Et ce qui nous a permis ensuite de nous restructurer, de relancer le site un petit peu plus tard, et ensuite de renforcer les abonnements. Mais donc les abonnements sont nés de ça, ils sont pas vraiment nés d'Adblock, ils sont nés vraiment. Enfin, il y avait une volonté d'une certaine manière de proposer autre chose que de la publicité, parce qu'on a toujours essayé de penser au confort de nos lecteurs, et on voyait bien que la publicité c'était devenait problématique pour tout un tas de raisons. On a parlé pour certains éléments dans le magazine, mais typiquement ça nous arrivait des fois d'avoir la régie qui le vendredi soir nous activait des flashs transparents alors que c'est un format qu'on refusait, par exemple, en se disant que comme ils pourraient pas répondre, du coup ils allaient laisser tourner ça tout le week-end. Et donc, bah, du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on coupait tous les tags de leur régie. Donc, du coup, il n'y a plus du tout de publicité pendant le week-end pour éviter ça. Donc, c'est vrai que, voilà, les abus publicitaires allaient parfois jusque là. On voyait bien aussi qu'on décidait pas forcément de ce qui s'affichait sur nos pages et ça nous posait un problème. Toute la dérive publicitaire actuelle découle de ça. Les sites ne savent même pas ce qui s'affiche sur leur page. Ils mettent des tags. Il y a des JavaScript qui se chargent et après, on s'aperçoit qu'il y a 100 trackers sur une page. Mais en fait, le site, pas conscient de ce qui va arriver sur ces pages, quoi. Donc nous, c'est quelque chose qui nous plaisait pas et qu'on a essayé de bloquer assez tôt. Après, il fallait bien qu'on vive, mais on essayait de trouver des alternatives assez tôt. Et le modèle économique pour la presse libre, en fait, la volonté c'était de se dire, voilà, il y a de plus en plus de sites qui se lancent sur un modèle payant. Et en fait, il y a deux solutions à ça. Le portefeuille des lecteurs n'étant pas infini, forcément, il y a une part définie qui serait pour la presse. En général, les gens dépensent 15-20 euros par mois pour de la presse et donc, ne pourront pas financer 50 médias avec ça. Et il y avait deux approches. La première approche qui est celle qu'on a essayé d'adopter, de se dire, plusieurs médias vont se mettre ensemble et vont proposer des abonnements à tarif réduit. L'autre approche, c'est l'approche à la Netflix, qui est plutôt privilégiée par des abonnements de type SFR Press, Caféine, ouais. De choses qui, moi, me posent un problème, parce que si tu regardes bien ce que l'abonnement illimité a fait à des secteurs comme celui de la musique, par exemple, tu vois que les indépendants sont pas vraiment les grands gagnants de l'affaire. Ce que je dis souvent, c'est que l'abonnement illimité à la Netflix va réintroduire ce qu'on a réussi à sortir du modèle économique des médias avec l'abonnement. C'est-à-dire que moi j'explique souvent que la différence entre l'abonnement et la publicité, un média qui est financé à la publicité a besoin de générer énormément de pages vues pour générer des revenus. La rémunération se fait soit à la page vue, soit à la performance, mais en général, ça découle aussi de ton nombre de pages vues, donc il faut énormément de pages vues. Et forcément, pour maximiser ta marge, il faut réduire tes coûts. Si tu regardes ce modèle économique qui est celui de la presse gratuite actuellement, en fait, elle tend vers une chose, c'est écrire sur Nabila avec des stagiaires. Parce que écrire sur Nabila, ça fait énormément de pages vues, et le faire avec des stagiaires, ça coûte très peu cher. Et donc, tu vois qu'une partie du modèle économique d'après, ça tendu vers ça. C'est-à-dire que les fermes de contenu, les dérives parfois de certains grands médias qui se sont un peu perdus à certaines périodes pour essayer un petit peu de faire ce qui se faisait sur le web, c'était ça. C'est-à-dire, c'était d'attirer énormément d'audience avec du contenu qui était pas forcément très qualitatif, mais qui coûtait très peu cher. Un média en ligne, pour être rentable, il peut le faire avec un seul article par an. Si par exemple ton modèle économique, ce qui est à peu près notre cas, nécessite que tu aies 25 000 personnes qui soient abonnées pour être rentable, avec le prix de ton abonnement, si un article dans l'année incite 25 000 personnes à payer ton abonnement, tu peux être rentable avec un article. Et ça, c'est une différence fondamentale. Ce que tu réintroduis avec les abonnements à la Netflix, c'est cette dépendance à la masse. C'est-à-dire que tous les mois, 10 euros par exemple vont être reversés à des lecteurs à un service. Ce service va ensuite répartir ces 10 euros à des médias. Il va le répartir sur quelle base? Sur la base du temps passé, sur la base du nombre d'articles lus. Il peut y avoir différentes mécaniques. Si c'est par exemple le nombre d'articles lus, bah ceux qui vont publier beaucoup d'articles et si possible des articles qui intéressent les gens. Et attention, quand je dis intéressent les gens, je veux pas forcément dire qu'ils les intéressent pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que ça peut aussi être des articles qui flattent les bas instincts de l'humain et qui vont l'attirer sur des sujets qui sont pas forcément très qualitatif d'un point de vue journalistique, on va dire. Et ben, c'est ces médias-là qui vont prendre une bonne partie de ces 10 euros. Si demain, tu mets Next Impact et un média tel que le New York Times, pour éviter de citer des Français, ne serait-ce qu'avec le volume de publication, la part qui va aller au New York Times et la part qui va aller à Next Impact va être infime. Alors, quand on le présente comme ça, New York Times et Next Impact, le fait que Next Impact touche moins d'argent que le New York Times, ça paraît légitime. Mais si tu mets Next Impact dans un panel avec 200 médias, dont on va dire 10 médias nationaux, qui publient entre 100 et 200 articles par jour, par exemple, qu'est-ce qui va nous rester? Des miettes. Et tu finances pas de l'information de qualité avec des miettes. Tu finances de l'information avec de l'argent en quantité. Ça coûte cher, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais des fois, quand t'enquêtes sur un sujet pendant un mois, deux mois, trois mois, ça nous coûte à nous autant que ça peut coûter à un média national. Alors, peut-être pas forcément dans les mêmes ordres de grandeur, mais ça nous coûte cher. Et ça nous coûte cher parce qu'on a un journaliste qui travaille. Et donc, que ce soit un article qui soit publié chez nous, qui soit publié sur Le Figaro, sur Libération ou dans Mediapart, c'est la même chose. Il faut payer le journaliste qui est derrière. Donc, le fait que tu réintroduises cette dépendance au fait d'attirer un grand nombre de lecteurs est, à mon avis, un problème. Et t'as beau essayer de le tourner dans tous les sens, c'est-à-dire que tu peux le faire plutôt au temps passé, plutôt au nombre d'articles, à un moment donné, tu reviendras toujours au fait que il faut trouver une mécanique de répartition, et que cette mécanique de répartition, elle finira toujours par être potentiellement détournée. Alors que quand tu payes un abonnement pour un prix qui est défini par le média, bah tu le payes pour le prix qui est défini par le média, voilà. Et donc c'est vrai que moi je suis pas spécialement fan, et je connais aussi beaucoup d'autres médias qui sont pas spécialement fans de cette mécanique de répartition. Je sais qu'elle se développe et qu'elle va très certainement continuer à se développer. Peut-être qu'un jour on fera partie d'un abonnement de ce genre, mais je le regretterai toujours parce que je sais très bien le mal qu'a fait le modèle publicitaire à l'information en ligne. Je sais très bien quel est le mal que feront ces modèles par répartition à l'information en ligne, et notamment à l'investigation. Et on peut pas se réjouir de voir ça. Maintenant, effectivement, il y a la problématique de l'accès du plus grand nombre à la presse et à l'information qu'il faut prendre en compte, qui est un vrai problème démocratique. C'est-à-dire comment on s'arrange pour que tout le monde puisse accéder à l'information sans avoir à payer 70€ par mois d'abonnement. C'est un vrai problème. Il se posait à l'époque où on était uniquement sur du papier, hein, parce qu'il fallait payer son journal tous les matins. C'est un problème qui se pose sur la question de l'abonnement en ligne. Je pense qu'on peut travailler à des solutions et à trouver des mécaniques qui sont intelligentes en termes de rémunération et de facilité d'accès pour le plus grand nombre. Je doute que ça soit en allant copier Netflix ou en s'associant avec Google qu'on y arrive. Voilà. Maintenant, chacun est libre de son modèle et se passera ce qui se passera. C'est pas Next Impact qui va définir l'orientation de la presse sur les 10 prochaines années. Nous, d'une certaine manière, de notre petite taille, on est obligé d'une certaine manière de subir l'évolution du marché. On le subit sur la publicité, on le subira aussi sur le modèle de l'abonnement. Maintenant, on essaye de montrer nos pistes et ce qu'on a essayé de faire avec la presse libre. C'est des combats qui sont compliqués parce qu'on est une petite équipe. Tu me demandais où est-ce qu'on en est. Si tu veux, sur la dernière année, c'est un projet qui a assez peu avancé parce que on manque de temps et on manque de moyens et qu'il a fallu qu'on se batte déjà pour finir le magazine, pour continuer à faire ce qu'on fait au quotidien, parce que ça prend quand même un petit peu de temps d'écrire des articles. Et on est une boîte de 10-15 personnes. Donc, oui, effectivement, on peut pas révolutionner l'info en ligne à nous tout seul, mais voilà, on essaye à notre échelle de le faire. On essaye de montrer la voie et puis on espère que les choses avancent dans le bon sens. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais...
Oui. CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes avec David Legrand, directeur des rédactions du groupe Next Impact, pour parler justement de la presse informatique. On l'a vu depuis 2000, la politique, le juridique, c'est désormais une composante très importante dans l'actu informatique. Comment arriver à la traiter ? Est-ce qu'on se spécialise encore plus? On échange avec des journalistes dont justement c'est la spécialité. Pourquoi pas aller jusqu'à la collaboration? Je pense notamment sur le scandale du crunch time dans le milieu du développement du jeu vidéo, qui est une actu qui a été coordonnée et co-traitée par Mediapart et Canard PC.
Oui. Alors, c'est des choses qui peuvent se faire. Alors, d'expérience, le travail entre rédaction est des fois un peu compliqué parce que chacun finira par avoir envie de tirer un peu la couverture à soi, ce qui est humain, c'est pas voilà, mais c'est toujours un peu compliqué. De toute façon, des journalistes travaillent ensemble au quotidien. Moi, ça m'arrive assez souvent, sans forcément apparaître dans des articles, mais de renseigner des confrères sur les questions numériques ou sur les questions typiquement de pistage ou ce genre de choses. Alors, sur la question de la politique, enfin, tu l'as évoqué parce que ça reste une de nos spécialités entre guillemets. Enfin, quand on a lancé PC Impact en 2003, on s'est dit assez rapidement que le numérique, en tout cas, ce qui était à l'époque l'informatique, allait infuser dans toutes les sphères de la société. On le sentait venir, on l'a vu assez vite, puis on l'a vu assez vite aussi d'un point de vue législatif. Hein, LCEN, ça reste une loi qui a déjà une bonne paire d'années. On s'est dit qu'on pouvait pas passer à côté de ça. Donc c'est là que le travail de Marc a été important et a continué de l'être sur les 15 dernières années. Mais voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse ça. Et plutôt que se dire on va aller chercher des gens de la presse généraliste avec qui on va travailler de temps en temps sur ces questions, on s'est dit qu'on allait les traiter au quotidien. Ce qui était pas forcément naturel à l'époque. Tu regardes la plupart des sites d'informatique qui sont créés dans les années 2000 ou même depuis. La grande orientation qu'ils ont pris par la suite, c'était plutôt de se mettre à traiter des mobiles et des 70 nouveaux smartphones qui sortent chaque mois, plutôt que d'aller se prendre la tête à savoir qu'est-ce qu'il y avait au journal officiel tous les matins. On a fait un choix qui était un choix qui était peut-être un petit peu dur, qui a pas toujours été bien compris par les lecteurs, parce que ça reste une bonne portion de nos publications quotidiennes, mais c'est un choix qui est important. De mon point de vue, le travail qu'on fait d'un point de vue démocratique et d'information du citoyen, en tout cas du plus grand nombre sur l'impact du numérique au quotidien, il est important parce que on le voit avec le fichier TESS, avec la loi Avia en ce moment, avec tout un tas de développements législatifs qui sont autour du numérique. Il y a la question de nos libertés, à côté desquelles on peut pas passer. Et c'est vrai qu'on peut se dire, oh, c'est pas grave, et puis de toute façon, les parlementaires vont décider des choses intéressantes, toujours. Il faut avoir une vigilance sur ces questions-là, et on est rare à le faire. Alors maintenant, c'est un peu plus le cas dans la presse généraliste, qui effectivement traite de plus en plus des questions numériques, plus que c'était le cas il y a 10 ou 15 ans, même si, bon, LCEN avait été traité aussi par la presse généraliste, mais effectivement, avec une attention qui est peut-être un petit peu différente. Ça nous arrive des fois de travailler avec d'autres rédactions. Maintenant, chaque média a ses journalistes, ses angles et compagnie. Et effectivement, si des fois, pour traiter différents aspects d'une problématique, ça peut être intéressant de s'associer, c'est pas systématiquement le cas. Je pense par exemple à un autre sujet qui, à mon avis, mérite qu'on s'y attarde et qui peut nécessiter le travail de plusieurs rédactions, c'est ce qu'on appelle les travailleurs du clic, qui a fait l'objet d'un reportage très intéressant avec Antonio Casi. Il y a quelques jours, ça reste des sujets qui sont transversaux, mais qui ont le numérique au cœur, quoi. Et nous, notre volonté, ça a toujours été ça, c'est-à-dire de continuer à traiter du numérique par ses aspects parfois un peu geek ou un peu frivole, c'est-à-dire qu'on continue à analyser des cartes mères ou des processeurs dans le détail. On continue de décortiquer des sous-fonctionnalités de Windows. Mais à côté de ça, on essaye aussi des fois de s'intéresser au dernier smartphone, aux dernières versions d'Android ou d'iOS qui sortent, mais faut pas oublier aussi que voilà, le numérique, il a un vrai impact sur notre quotidien, il a un vrai impact sur notre travail, sur nos familles, sur l'ensemble de nos actions. Ils font partie désormais de notre empreinte numérique. Voilà, c'est des sujets d'importance qui sont complexes à comprendre et qui peuvent avoir des impacts assez réels. L'exemple de Cambridge Analytica, par exemple, on voit qu'il peut y avoir énormément d'implications dans ce que fait le numérique à nos vies.
Je tiens à dire d'ailleurs pour l'anecdote que l'on est en train d'enregistrer en fait 48 heures après l'annonce de la démission par Benjamin Griveaux qu'il y a plein de projets de loi absolument stupides alors que l'arsenal législatif est déjà là. Le rôle justement d'une presse informatique spécialisée et en même temps qui s'y connaissent au niveau juridique est quand même extrêmement utile. Pour en revenir, puisque tu l'as abordé tout à l'heure sur le matériel, sur les tests, sur le logiciel et tout ça, comment cela se passe-t-il dans la presse informatique ? Est-ce que vous l'achetez ? Est-ce qu'on vous le donne ? Est-ce qu'on vous le prête pour une durée limitée ?
Alors, ça se passe maintenant comme ça se passait déjà il y a 15 ans, parce que moi, j'ai pas noté énormément d'évolution de ce point de vue. Alors, dans notre cas, il y a différentes possibilités qu'on essaye d'évoquer clairement dans les articles la plupart du temps. Notamment au matériel informatique. Ça nous arrive d'acheter du matériel informatique. Maintenant, il faut bien avoir conscience que certaines cartes graphiques coûtent 1 500 € pièce. Certains processeurs coûtent parfois maintenant 3 000-4 000 € pièce. Bien entendu que pour publier un article, on ne va pas se mettre à acheter ses composants. Alors, je rêverais que le modèle économique de la presse informatique le permette. Et honnêtement, je pense que si on pouvait y arriver, ça serait une bonne chose. Je prends souvent l'exemple de l'UFC Que Choisir, hein, qui achète l'ensemble des produits qu'il teste. Malheureusement, pour des rédactions comme les nôtres, c'est un petit peu compliqué. Et donc, du coup, il y a des cas où ce sont les constructeurs qui nous les prêtent, peu à durée limitée la plupart du temps. Ça arrive des fois que des produits restent dans les labos à durée plus indéterminée. Nous, on a fait le choix d'avoir des règles assez claires là-dessus, c'est-à-dire que les composants qui sont envoyés à la rédaction, qui sont pas forcément récupérés, sont utilisés pour des tests de manière régulière ou non, mais dans tous les cas, ne peuvent pas être utilisés titre personnel par les journalistes pour éviter qu'on les prenne comme des cadeaux. Et dans tous les cas, on essaie d'avoir une grande distance entre ce que nous envoient les constructeurs et la façon dont on en parle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un constructeur va nous envoyer un produit qui peut coûter plusieurs milliers d'euros que par magie on va en penser du bien. Voilà, ce qui reste pour nous l'élément le plus important, c'est d'être critique à la positive ou à la négative. Hein. Ça peut être les deux. Quelle que soit la façon dont on a récupéré le produit et la durée pendant laquelle on le garde. Voilà, après, pourquoi on garde les produits ? Parfois, c'est juste parce que les constructeurs n'ont pas l'habitude de les récupérer. Et, tu vois, typiquement, moi, ça peut m'arriver d'avoir des processeurs que j'ai ici depuis quelques années et qu'on peut réutiliser pour des tests par la suite quand il faut qu'on fasse des gros comparatifs ou quand il faut qu'on fasse un comparatif sur l'évolution d'une gamme par rapport à une autre. Voilà, et ça nous évite d'avoir à les redemander systématiquement. S'il n'y a pas d'usage personnel, on est dans les clous d'un point de vue déontologie. Voilà. Et on est de toute façon assez clair. En tout cas, ceux qui connaissent Next Impact et Impact Harder depuis quelques années, savent qu'on est tous sauf conciliants, et que c'est pas parce qu'on va nous envoyer tel ou tel produit qu'on va l'être un peu plus. Donc voilà.
je vais faire complètement un aparté. Cette fois-ci, c'est vraiment pour le bonus de l'émission radio. J'ai été chroniqueur BD pendant 20 ans. Donc, évidemment, une partie de ma bibliothèque, voilà, c'est eu dossier de presse. J'ai vu plein de journalistes vendre des bouquins qu'ils ont reçus et tout ça. Oui. Moi, j'ai jamais pu. C'est un truc que je ne pouvais pas parce que je savais que l'auteur originel n'avait touché aucun droit dessus. Et 20 ans après, je voyais bien
oui,
que
après,
20
après,
ans avant, je voyais que ça, c'était un problème. Et d'un autre côté, voilà quoi. C'est...
Après, moi je fais la différence. Enfin, après, pour moi, il y a aussi différents niveaux de. Alors, moi, j'ai parlé de notre cas à nous et de nos règles, les règles qu'on s'impose. Enfin, nos règles déontologiques ont déjà quelques années, elles sont publiées sur le site. En général, tu vois, il y a souvent aussi la question des voyages de presse. Effectivement.
Ouais. Vous êtes inspiré d'ailleurs à ce sujet de ce qui existe dans la presse américaine, justement, qui a des règles. Enfin, dans la presse entre guillemets ouais, classique et américaine qui sont assez strictes hein.
Ouais, ils sont assez stricts. Enfin, ils sont assez stricts, c'est-à-dire que
enfin, ils sont supposés
voilà, ils ont on va dire qu'ils ont énormément de règles effectivement. Maintenant tu vois aussi aux États-Unis une espèce des fois de collusion de proximité entre constructeurs et éditeurs que tu verrais pas sur de la presse française par exemple. Après ça peut dépendre des cas et des personnes. Maintenant enfin honnêtement tu parles de la revente. Moi ça m'arrive des fois de voir des gens qui revendent des produits ou des kits de presse de jeux vidéo. Pour moi il y a des statuts qui sont un peu différents quand tu vois des bénévoles qui ont un site sur leurs données personnelles qui gagnent pas énormément d'argent avec ça ou des fois des petits youtubeurs pour qui ça reste une activité de passion et compagnie, qu'ils essayent d'arrondir leur fin de mois de cette manière-là, ça me choque pas outre mesure, et c'est pareil. Pour moi, l'important, c'est de toute façon que ça soit évoqué en transparence avec les lecteurs, et ensuite, c'est à eux de juger. Maintenant, effectivement, quand t'es un média, quand t'es un journaliste, que t'es payé pour tester des produits, je pense qu'il faut que tu t'astreignes à une certaine rigueur, et notamment que t'évites d'en faire une source de revenus, parce que en fait le problème il est là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement tu tires un revenu de la revente de produits, bah tu vas avoir intérêt à aller chercher des produits qui coûtent cher, de les récupérer, et tu sais que t'as plus de facilité à les récupérer si t'es gentil avec tout le monde plutôt que si t'agresses tout le monde. Moi ça m'est arrivé pendant certaines périodes, suite à certains papiers où j'ai pu être un petit peu acide sur des produits, d'avoir des constructeurs qui nous envoyaient peut-être un peu moins souvent des produits ou avec un peu moins d'entrain. Bon, voilà, et on a toujours fait avec, et c'est la vie. Et en tant que journaliste, on est préparé à ça aussi, des fois, à avoir des difficultés à récupérer des produits. Et c'est là où, par exemple, des fois, ça nous arrive d'en acheter, même si, bon, souvent, en fait, dans la presse informatique, on achète des produits qui sont très peu mis à disposition des journalistes. Parce qu'en fait, pour moi, le vrai danger, par exemple, de la dépendance aux samples, enfin, ce qu'on appelle des samples, c'est-à-dire les exemplaires de presse qu'on t'envoie, il n'est pas vraiment de savoir si le journaliste va le garder ou pas. Il est de savoir quel sample on va envoyer au journaliste. C'est-à-dire que quand il y a des processeurs haut de gamme qui sont annoncés, ils peuvent être distribués de manière assez large. C'est-à-dire que énormément de journalistes peuvent recevoir des samples et du coup, il y aura énormément d'articles sur le sujet. Parce que bon, en général, quand on t'envoie un produit, c'est quand même pour que tu lis des articles. Par contre, des produits plus entrées de gamme ou peut-être avec des combinaisons de caractéristiques qui sont peut-être un petit peu moins positives arriveront difficilement par les canaux classiques chez des journalistes. Par exemple, ça peut arriver qu'il y ait des ordinateurs portables qui soient spécifiques à certains vendeurs. Ces produits-là ne sont jamais testés par des journalistes ou très peu. Et pour moi, c'est le problème, il est là, par contre. C'est-à-dire que effectivement, et c'est le même problème, par exemple, pour la publicité sponsorisée ou du coup, tu vas faire des articles sponsorisés sur telle ou telle marque, typiquement sur NordVPN ou sur des sociétés qui sont très très actives d'un point de vue du sponsoring, mais tu vas pas aller parler d'initiatives qui sont open source par exemple, qui ont zéro budget marketing. Tu vas pas aller parler d'initiatives qui ont peut-être moins d'argent et qui sont peut-être plus efficaces, mais voilà. Et donc pour moi le souci il est là, c'est-à-dire que si en tant que journaliste tu ne t'arrêtes qu'au sample, tu ne t'arrêtes qu'à certains produits des constructeurs et surtout tu ne t'arrêtes qu'à certains constructeurs qui ont des budgets pour ça. Donc il faut aussi avoir la curiosité d'aller chercher des produits qui sont pas volontairement poussés par les constructeurs, mais qui peuvent être dans l'intérêt du lecteur, ou qui par contre sont évités par le lecteur. Toujours plus compliqué de passer du temps juste pour dire du mal d'un produit, on a un temps limité, donc c'est vrai qu'on essaye toujours de trouver plutôt des produits sur lesquels qu'on a envie de recommander plutôt que l'inverse. Mais il faut aussi savoir critiquer des produits qui sont très mauvais. Avoir la liberté d'acheter des produits est importante, parce que ça nous permet des fois d'aller chercher des petits accessoires, des petits trucs, des choses comme ça du quotidien que tu verrais pas si on s'arrêtait uniquement au sample. Maintenant, ça veut dire avoir un budget pour ça, et pour avoir un budget pour ça, il faut avoir un modèle économique qui soit viable. Et on en revient toujours à la question de est-ce qu'on peut avoir un modèle économique viable qui permet de payer des journalistes et de s'attarder sur des petits produits sympas quand on est sur un modèle publicitaire. la presse informatique, on voit que sur les 15 dernières années, la tendance a plutôt été à la fermeture, à la concentration, plutôt qu'à l'expansion de médias qui parlent de petits produits passionnants, quoi. Voilà. Et quand tu vois, quand on entend parler de petits produits qui sortent du lot, c'est souvent des chinoiseries qui sont envoyées à des influenceurs par des vendeurs Amazon qui cherchent les 5 étoiles. Et je trouve que c'est un peu dommage de s'arrêter à ça, et il faut aussi avoir une presse qui est capable d'acheter des produits et de les tester depuis le circuit commercial, ce qui évite aussi des fois des samples qui sont un peu trop parfaits, qui arrivent à la presse, contrairement à ceux qui peuvent être vendus.
Oui. Comme si. Mais enfin, monsieur Legrand, est-ce que, contre un paquet de Doritos, goût nature, king size, vous êtes capable de ne pas dire que ce smartphone pliable est une merde ?
Non, mais je suis pas grand fan de Doritos à la base, donc...
Ah, dommage. Je les mangerai alors.
Tu pourras plus facilement essayer de m'acheter avec une pièce de bœuf. Voilà. Si tu veux, c'est pareil. Tu vois, je reprends sur la question des voyages de presse. On fait des fois des voyages de presse qui sont à l'étranger, qui peuvent demander plusieurs milliers d'euros d'investissement dans des billets d'avion, dans de l'hôtel, dans les restaurants. Moi je fais ça depuis 15 ans. J'ai jamais vu les voyages de presse comme un avantage. Souvent les gens te disent mais tu vois, surtout dans l'entourage, tu sais, déjà les gens comprennent pas c'est quoi mon métier. Alors je leur dis que je suis journaliste dans les nouvelles technologies pour faire sobre, mais parce que si je fais la liste de mes activités, on n'est pas sorti. Mais si tu veux, j'essaie déjà de leur faire comprendre que c'est un vrai métier parce qu'ils comprennent pas trop. D'ailleurs maintenant qu'on a sorti un magazine de papier, ils vont peut-être finir par comprendre qu'on fait un vrai truc. Mais souvent ils me voient me balader un peu partout dans le monde tout au long d'année, et ils voient ça comme tu voyages beaucoup, t'as trop de chance. Et en fait moi je leur explique que un voyage comme le CES, alors nous on a toujours participé au salon à nos frais, par contre on jamais en voyage de presse, mais ça nous arrive de faire des voyages de presse comme tous les médias, enfin il n'y a pas de médias, même dans les plus vertueux, qui refusent les voyages de presse. On l'indique par contre à nos lecteurs quand on participe à un voyage de presse. Quand t'es en voyage de presse, c'est tu parles dimanche de l'aéroport, t'arrives le lundi matin, on te laisse en général une après-midi pour souffler quand t'es à l'étranger, qu'il y a un décalage horaire. Et puis après, on te met dans des salles pour parler avec des ingés pendant des heures d'un produit. Et puis après, on te renvoie chez toi, quoi. Donc voilà. Après, il y a des voyages de presse qui tiennent plus du loisir, hein, qui sont effectivement des voyages de presse à Hawaï. Moi, ça m'est arrivé une fois de faire un voyage de presse où la moitié du voyage de presse c'était proposé aux journalistes de faire du ski. Bon, voilà. Moi, c'est en général, c'est des choses que j'évite. L'une, parce qu'en fait, j'aime bien voyager, mais avec ma femme et éventuellement mon fils, même s'il est un peu jeune pour voyager encore. Et même si j'apprécie énormément les autres journalistes avec qui il m'arrive de faire des voyages de presse, je considère pas ça comme des vacances. C'est-à-dire que tout le temps que je passe en voyage de presse, je le passe pas à bosser au labo ou à faire avancer le site ou à travailler sur des articles, ou en tout cas beaucoup moins vite. Et donc pour moi, c'est des temps qui sont compliqués. C'est-à-dire que plus je passe de temps hors de chez moi, et plus ça me pose de problèmes. Donc j'essaie d'éviter au maximum les voyages de presse inutiles. Moi, j'ai plutôt tendance à voir ça comme parfois une contrainte. C'est-à-dire qu'il y a des fois des voyages de presse, je préférerais qu'on se contente de faire un call par Skype avec les personnes qu'on va aller rencontrer, parce que en fait, le fait de se déplacer ajoute pas toujours une plus-value, malheureusement. Maintenant, il faut savoir aussi que des fois, pour récupérer un sample, en tout cas avoir accès à un produit, on nous oblige à participer au voyage de presse. C'est-à-dire qu'on dit, si tu vas pas au voyage de presse, t'as pas les informations, t'as pas les documents, t'as pas les produits. Et pour nous, il faut faire des choix là-dessus. Donc des fois, on refuse, des fois, on accepte. Typiquement, quand on va au CES, au MWC, au Computex, on y va avec Sébastien Guévois chez nous. On y va tous les deux. On se lève à 5h du matin, on se couche à 23h et on marche 20 000 pas dans la journée, en parlant à des gens, en prenant des photos, en écrivant des articles. Et on revient, on est rincé, quoi. Donc, et quand on revient, en plus, il faut se remettre à travailler et rattraper tous nos mails en retard. Je préférais faire Instagrammeur, en vrai, si vraiment ma passion était le voyage et le confort. Voilà. Et c'est pas le cas. Honnêtement, choisir la voie de journaliste et journaliste tech, c'est pas forcément la voie la plus simple dans la vie pour faire détente et richesse, quoi. Voilà. Ou alors, je me suis un peu trompé dans le métier que j'ai choisi ou la voie que j'ai choisie. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer, en tout cas, que ce soit pour moi ou d'autres confrères. Hein. Voilà, on a des vies qui sont parfois un peu compliquées. On publie un format qui s'appelle Le Brief le matin, qu'on publie en général vers 10h. Avec Seb, on se lève. Moi, je me lève entre 4h et 5h du matin en général. On commence vers 6h. C'est une vie qui applique de se lever tôt et de se coucher tôt. Maintenant, c'est pas du choix que je regrette, ou en tout cas, j'ai pas vocation à demander à ce qu'on plaigne. Mais effectivement, si j'avais voulu choisir la voie de la facilité et de la richesse, j'aurais fait autre chose, certainement.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec David Legrand, directeur des rédactions du groupe Next Impact, pour parler de la presse informatique. Cela fait plus d'une décennie que Next Impact s'est fait un nom, surtout par les articles de Marc Ress sur la collusion étrange entre le business du divertissement et les politiques pour saboter Internet. Avec beaucoup de savoir-faire d'investigation, Jean-Marc Manac vous a rejoint l'été dernier avec d'entrée des articles explosifs sur Quant, où il ne faisait que redire en fait ce qui était dit par d'autres personnes, mais avec une recherche beaucoup plus sobre et beaucoup plus neutre. Est-ce que les reportages longs et spécialisés font l'audience ou la notoriété ?
Alors, est-ce qu'ils peuvent faire l'audience et la notoriété ? Oui, ils peuvent faire les deux. Les articles sur Quant dont tu parles, ou même des fois des articles de marque à l'époque de la copie, enfin des débuts de la copie privée, ou même dans la grande période Adopi Compagnie, était très suivi. Notre article sur le RGPD, analysé ligne par ligne, a été énormément lu. Donc, est-ce qu'on peut faire de la qualité de l'audience et réussir à tenir le coup ? Oui. Et de fait, je pense que, enfin voilà, on existe depuis 15 ans, on est un média qui appartient à 75% à son gérant fondateur, donc qui a l'obligation d'être rentable tous les ans, parce que si on n'est pas rentable, on ponctionne nos comptes, et si on ponctionne nos comptes, il y a personne derrière pour remettre au pot, donc effectivement, on est tenu à une certaine rigueur financière. Et de fait, on existe depuis maintenant 20 ans, on est une société depuis 2003, on est en 2020, on va fêter nos 17 ans en tant que société commerciale, et on est toujours là, et on peut pas forcément dire autant de nombre de médias en ligne qui ont pas forcément toujours misé sur l'investigation. Maintenant, est-ce que c'est le moyen le plus simple de faire de l'audience ? Non. Honnêtement, ça m'arrive de faire des audiences pharaoniques avec des articles qui ont juste rien à voir avec de l'analyse de fond, juste parce qu'il y a le bon mot-clé en tête d'article. En fait, il y a un exemple que je donne assez souvent. Il y a quelques années, j'aurais pu te dire quelle année, on fait toujours des trucs un peu marrants pour le 1er avril. Et une année, on s'est dit qu'on allait faire un 1er avril clickbait. C'est-à-dire que on allait faire ce que font tous les autres pendant une journée. Et donc, écrire que des articles à la con. Et on a fait plus 50% d'audience dans la journée. Donc, ce qui prouve bien que c'est pas qu'on sait pas le faire. Ça reste un choix de notre part. C'est assez marrant parce qu'on s'était amusé à faire aussi un article où on disait les 10 points forts de tel Freebox et les 10 points faibles de tel Freebox. Je crois qu'à l'époque, ça devait être la mini 4K parce que je crois qu'elle venait de sortir. Et c'est assez marrant de voir aussi est-ce que c'est le fait d'être positif ou négatif sur un produit qui attire le plus de gens ou ce genre de choses. Mais voilà, donc on a fait plein d'articles, si possible, très, très peu intéressants.
Et plein de métriques derrière.
Et on a fait plein de métriques derrière. Et voilà. Et comme à une époque, on s'était aussi amusé à activer un auto-refresh sur le site pour regarder l'impact que ça pouvait avoir et faire des stats dessus. Et on avait fait un article pour expliquer quel était l'impact de ça. Parce qu'effectivement, il y a aussi, tu vois, on parlait des dérives et des fois, mais souvent, les dérives contiennent aussi de la triche. Et quand tu vois des médias qui font des refreshs automatiques sur leur site, dès que quelqu'un passe plus de 3 minutes dessus, alors qu'il y a une vidéo de 5 minutes à lire sur la page, et c'est aussi pour juste des questions d'audience, parce que les audiences font l'impact publicitaire et l'impact donc économique. Maintenant, est-ce que c'est aussi facile de faire des articles sur Quant que de faire des articles sur les 10 points positifs ou négatifs d'un Mickey 4K ? Non. Et est-ce qu'on pourrait faire autant d'audience, voire plus d'audience avec des articles qui nous demanderaient beaucoup maintenant ? Oui. Mais on a fait le choix d'écrire principalement, et je dis bien principalement, parce que parfois tu peux avoir un modèle qui est celui d'écrire des articles à la con toute la journée, et puis une fois par mois de faire un article bien, pour ta notoriété justement. Parce qu'effectivement, ce qui est notre marque de fabrique et ce qui fait qu'on est connu depuis 15 ans, c'est notre notoriété, c'est notre capacité à produire des articles et des analyses de fond sur les sujets du numérique et de s'éloigner parfois la pensée dominante, en tout cas du point de vue dominant, parce qu'on a passé le temps à analyser les choses. Voilà, tu prends le cas de Quant ou après de l'Inagora et compagnie, voilà, on a traité Quant comme n'importe quel média depuis leur début. On a été assez critique avec le modèle de Quant dès les premiers articles qu'on avait fait, parce que je me rappelle des premiers articles de Sébastien à l'époque où Quant s'est lancé, où on parlait, bon, il y avait l'interface qui piquait un peu les yeux les premières années, mais il y avait déjà la question de Bing qui était posée. Et c'est vrai qu'on a vu Quant grandir, on a évoqué la façon dont Quant grandissait, on a ses qualités, ses défauts, c'est-à-dire qu'effectivement ils allaient sur tout un tas de terrains, ce qui pouvait pouvait être une bonne chose, notamment quand tu vois le travail qui était fait sur QuantMaps ou la volonté de créer un compte mail. Mais ça s'est fait aussi avec une communication qui partait tous azimuts, des déclarations qui étaient jamais suivies des faits. Je me rappelle être allé à une conférence chez eux où on avait pu discuter avec les équipes, où on nous annonçait une dizaine ou une quinzaine de services arrivés dans l'année. J'avais refait un papier un an plus tard. Il n'y avait pas la moitié qui était sortie. À l'époque, il y avait effectivement déjà compte mail, mais aussi compte paye, tout un tas d'autres services. Donc voilà. Et c'est vrai que la communication là-dessus, elle se voulait positive. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'était de dire, voilà, on avance. Mais il faut aussi savoir, à un moment donné, avoir une réalité par rapport à ta communication. Et c'est un truc qu'on voit souvent avec les startups. Il y a aussi une société que moi, je couvre plus personnellement, qui s'appelle Blade, qui fait le service Shadow, qui s'est fait une espèce d'habitude d'annoncer des dates qui tiennent jamais. Alors, ils en rigolent beaucoup. Mais c'est vrai que pour le client, ça peut être un peu plus décevant. Ils avaient annoncé un produit pour février de cette année. Finalement, ils viennent d'annoncer que ça sortira pas avant l'été pour une bonne partie des clients qui avaient fait une précommande. Donc voilà, donc on est là aussi, déjà, ne serait-ce que pour suivre sur le long terme. Tu prends le cas de Blade ou de Shadow, souvent, quand ces sujets sont traités, on va t'expliquer ce que va dire le communiqué de presse le jour où il est publié. Avec un peu de chance, tu vas avoir un petit peu de recul sur ce qui a été annoncé l'année d'avant, mais t'as en général très peu de suivi sur le détail. Moi, je vois le cas de Blade ou de Shadow, je les suis, enfin j'écoute toute leur Shadow News, qui est la vidéo qu'ils publient de manière régulière pour tenir au courant des évolutions du projet. J'analyse tous les mails qu'ils envoient, les communications qu'ils ont avec leurs lecteurs, comment le produit évolue dans la réalité, et j'en fais des articles de manière régulière, mais ça me prend un temps fou. Et on peut pas dire que c'est leur service presse qui me facilite la vie, puisqu'ils répondent à peu près à jamais aucune de mes questions, ou à part pour me dire qu'ils répondront pas à mes questions. Il leur arrive des fois de me faire des réponses, mais on est parfois incomplètes. Mais d'une certaine manière, c'est aussi leur boulot de vouloir faire connaître la bonne parole. C'est à nous d'aller creuser derrière. Mais creuser, ça prend du temps. Et donc, c'est vrai que quand t'écris un papier sur une de ces sociétés qui peut te demander des fois plusieurs semaines de travail, parce qu'il faut aller interroger la société, il faut aller interroger ses partenaires, faut aller chercher dans des documents financiers, faut acheter ces documents financiers parfois sur le site du greffe ou genre de choses. Voilà, ça demande un temps qui est important. Moi, parfois, les lecteurs nous disent « Next Impact, vous publiez que quelques articles par jour, par exemple. » Et je leur dis « Mais oui, mais parce qu'on essaie de publier des articles qui sont intéressants. On pourrait publier une vingtaine d'articles par jour sur le flux principal du site, mais il serait très court et forcément pas très intéressant, parce que quand un journaliste publie chaque jour plusieurs articles, ça veut dire que sur ces 7 heures de travail officielles, parce qu'on est aux 35 heures, ça veut dire que s'il publie 3 articles dans la journée, il a passé que 2 heures sur un article. Alors 2 heures, vous allez me dire, c'est long. D'accord, mais pour faire un travail d'investigation, c'est court. C'est-à-dire que pour écrire un article, le faire relire et le publier, oui, ça va.
Et on aurait trouvé forcément le même article, le même sujet et la même surface grattée sur d'autres sites.
Oui, certains,
gratuits.
Regarde la plupart des médiathèques, entre guillemets, en France ou même dans le monde. Actuellement, c'est quoi? C'est des sites qui vont aller regarder ce qui se passe sur The Verge ou sur d'autres médias américains, qui vont le traduire et qui vont le recopier plus ou moins avec talent. Voilà, la plupart du temps, c'est ça. Il arrive que, de temps en temps, il y ait effectivement de l'investigation ou des recherches, ou en tout cas sur des sujets qui sont peut-être franco-français, mais c'est assez rare. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut remplir le flux, il faut nourrir la bête. Et tous les jours, il faut publier ta vingtaine ou ta trentaine d'articles. Notre réaction par rapport à ça, ça a été de lancer, il y a quelques années, un format dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Le Brief, où effectivement, le matin, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé un peu partout dans le monde, on va aller, même des fois, pour des petites infos qu'on est les seuls à avoir, mais on va les diffuser à 10 ou 11 heures du matin. Et à 10 ou 11 heures du matin, on publie en général une vingtaine de petits éléments d'actualité sous la forme d'une page unique. Parce qu'effectivement, on se dit, voilà, pourquoi nos lecteurs iraient cliquer 20 fois pour lire 20 petites infos? Bah, nous, on leur met tout dans une seule page. Et bon, après, il y a des pages uniques qui existent, notamment pour les commentaires ou ce genre de choses, mais quand on le publie, c'est publié sous la forme d'une page unique. Et ils n'ont pas cliqué 20 fois. Ça ne nous fera pas 20 pages vues, ça ne nous fera pas 20 affichages publicitaires, mais on s'en fout parce que les lecteurs peuvent être informés dans une seule page juste en scrollant un peu. Et pour nous, c'est le confort de l'utilisateur qui prime. Et donc, du coup, on a lancé ce format-là pour ça. Et souvent, quand on parle du brief, on dit, vous allez lire dans le brief le matin à 10h ce que vous allez lire sur tous les autres médiathèques tout au long de la journée et de manière étendue. Parce que forcément, des fois, nous, on a des éléments de brief qui font 2 lignes. Parce qu'il n'y a pas autre chose à dire. Voilà, des fois, il y a juste une nouvelle version d'un outil qui est intéressante, mais qui sort, il n'y a pas grand-chose à dire à part c'est disponible. Bah, des fois, ça va faire 2 lignes de dire ça. Et bah, dans un média classique, quand tu parles d'un truc qui devrait faire 2 lignes, bah, c'est pas possible, parce que 2 lignes dans une page, ça se voit un peu que tu te moques du monde. Donc, ce qu'ils font, c'est que, bah, ils brodent autour. Et donc, du coup, ton article fait 3000, 4000 signes. En fait, nous, on veut pas perdre de temps à broder. D'une, parce qu'on est peu. Et de deux, parce qu'on pense qu'on a une plus-value à apporter qui est sur d'autres sujets et sur d'autres pratiques. Et traduire dans l'information, c'est pas notre métier. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir une espèce de revue de presse, parce que pour nous, c'est un peu comme ça qu'on voit le brief, c'est de revue de presse de l'actualité en France et à l'étranger sur des sujets qui comptent, mais qui ne méritent pas forcément qu'on s'y attarde. En tout cas, au moment où on publie, parce que ça peut nous arriver des fois de mettre des éléments dans le brief en sachant qu'on va rebondir sur un article de fond par la suite dessus. Mais effectivement, on essaye principalement de finir le brief vers 10-11 heures pour ensuite passer le reste de notre journée à faire d'autres choses. Et à aller faire de l'investigation, et à aller creuser, à tester les produits, et ce genre de choses. L'idée, c'est d'avoir une actualité qui se fait en différents temps. C'est-à-dire, effectivement, le matin, on va plus aller faire de la revue de presse, on va aller diffuser de la petite information au plus grand nombre, parce que c'est en accès libre, hein, pour le coup, avec assez peu de publicité, parce qu'on a assez peu de publicité. Et donc, tout le monde peut y aller, peut éventuellement recevoir une alerte par mail, ou ce genre de choses. Et ensuite, on va aller faire autre chose. Et l'idée, notamment du magazine, elle est arrivée de vouloir avoir un troisième temps. C'est-à-dire de dire, voilà, il y a des choses, des fois, qui nous demandent peut-être un peu plus de temps que ce qu'on essaye de publier sur le site, ou qui demandent un format un peu différent. Et donc, le papier peut être intéressant pour ça. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, on va essayer de se lancer une aventure papier, de faire un magazine, et puis de voir si ça marche, si ça plaît, si ça peut être rentable, et si on peut le faire.
Donc, l'idée paradoxale de monter un magazine papier pour un pure player, ce n'était pas uniquement pour expliquer à tonton Roger quel était vraiment ton métier, quoi. C'est aussi pour mieux exposer finalement
vos
enquêtes.
Oui, mais alors, j'ai pas l'égocentrisme à te faire travailler.
Tout le monde n'a pas la prolixité de Jean-Marc Manac pour écrire un bouquin à chaque fois, quoi.
C'est ça. Mais en
Jean-Marc, si tu nous écoutes.
Ça, alors d'une, j'ai pas lancé toute l'équipe dans une aventure pour juste expliquer quelque chose à tonton Roger. Ça aurait été assez égocentrique. L'idée du magazine papier, elle est née de différentes choses. Effectivement, il y avait ça. C'est-à-dire que moi, me traînait dans la tête l'idée d'avoir une voix pour des choses à plus long terme. En fait, la chose qui me dérange sur un média même quand même Next Impact, c'est que tu prends une enquête comme celle de Quant, elle reste perdue dans l'amalgame d'articles qu'on a écrits. C'est-à-dire que à retrouver, je sais pas combien d'articles on est de diffusés depuis nos débuts.
Et puis elle est sortie en plein été. Alors Quant, je pense que quand même là ils ont eu du bol que ça soit sorti au moment le plus creux.
Oui, après les infos sortent quand elles sortent, mais effectivement c'est dans notre base de données, c'est quelque part là-dedans, c'est retrouvable sur le site, on peut mettre en avant tel ou tel sujet, mais effectivement ça a tendance à s'accumuler dans une base de données. Et je trouve ça dommage d'une certaine manière. Moi c'est quelque chose que j'aime pas dans la presse numérique. Alors je suis né avec ça et effectivement ça reste pour moi quelque chose de voilà, mais il y a pas cette notion de numéros ou d'éléments physiques arrêtés qui ne bougera pas et qu'on peut retrouver assez facilement avec une référence, voilà. Et c'est quelque chose que j'aime bien parfois dans la presse dans la presse professionnelle qui édite des fois des PDF ou ce genre de choses, c'est qu'il y a cette notion d'un objet qui est fini et qui reste enregistré comme tel. Voilà. Et donc il y avait cette volonté là dans le magazine, il y avait la volonté de faire un objet exceptionnel pour nos 15 ans. Pareil, c'était 15 ans de Next Impact en tant que société commerciale, parce qu'on est né en 2003 et enfin le site a été créé, la société a été créée en 2003 et le magazine a été, enfin la campagne a été lancée en 2018. Et donc l'idée c'était de fêter ça, donc avec un objet exceptionnel, mais c'était aussi d'avoir la capacité d'arrêter les choses dans le temps, de les figer autour d'un sujet, d'une thématique et de réussir à faire ça et de voir si on était capable de le faire, parce que une fois de plus moi je dis souvent que un magazine papier qui va faire du web, pour lui c'est compliqué parce qu'il a pas de développeur, il a pas forcément la culture, il a pas forcément l'habitude, enfin tu vois, comme je dis c'est quelque chose d'écrit, c'est arrêté, donc tu vas avoir tendance à prendre énormément de temps à le réfléchir, à le mettre en forme, à être le plus concis possible, alors que comme tu le dis sur le web on n'a pas de notion de place. Quand Jean-Marc Manac te dit j'ai écrit 60 000 signes, il écrit 60 000 signes, tu les publies, tu lui dis pas hey mec j'ai 3 pages pour ton papier, voilà. Et donc ça fait 8000 signes maximum. Donc tu t'as pas cette problématique là. Tu peux publier des trucs ultra longs. Alors après effectivement, il faut publier des e-books que des pages web, mais effectivement tu peux publier des articles longs. L'analyse qu'on avait faite du RGPD est de ce type là. Si tu prends ça et que tu le mets dans un magazine, ça fait 20 pages. Du coup, c'est des choses qu'on peut diffuser. Maintenant, c'est vrai qu'avoir quelque chose d'arrêté physique, on trouvait que c'était intéressant. Puis aussi, tout le monde dit que le papier est mort, donc on s'est dit c'est cool, il faut en faire. Hein. Voilà, on adore aller à contre-courant des choses.
Vous avez mis 18 mois à boucler votre magazine papier, c'est bien au-delà du temps que vous aviez originellement estimé. Bon, ça, à la limite, c'est un peu normal, hein. C'est un projet informatique. Il est toujours plus long, même quand on prend en compte le temps de débordement. Il fallait prendre autant de temps ou bien vous vous êtes bien planté?
Je dirais que c'est un peu les deux. Alors, les projets informatiques qui prennent du temps, on a l'habitude parce qu'on arrive sur la 7e version du site. Je crois qu'on a un peu une seule version qui est sortie à l'heure de mémoire par rapport à nos projets initiaux, parce qu'effectivement ça prend du temps. Alors c'est pas un projet informatique, hein, donc on peut même mettre ça sur le dos des développeurs pour le coup. On a sorti le magazine, on l'a financé. Je crois que la fin de la campagne de financement participatif était pour mai 2018, mais si mes souvenirs sont bons. On s'était dit on se donne 3 ou 6 mois pour le faire. Voilà. Je pense que la folie était là. C'est-à-dire on s'est dit 3 ou 6 mois pour monter un magazine, on va y arriver, on peut le faire, alors qu'on n'avait jamais touché une once de quelque chose en relation avec du papier au départ. Les difficultés ont été multiples, c'est-à-dire qu'on pensait écrire une bonne partie du magazine pendant l'été, ça n'a pas pu être le cas. Parce que pendant l'été, les gens sont en vacances et puis des fois, on se retrouve aussi à travailler plus qu'on le prévoit. C'est souvent mon cas parce que notamment, il y a beaucoup de lancements de produits qui se font pendant l'été et en général, c'est pas la période la plus calme pour moi. Et on a des projets qui ont pris plus de temps que prévu. Je pense notamment au portrait qui avait été écrit par Gwen. Mmh. C'est-à-dire le temps de décider qui on interviewait, de lancer les interviews, d'aller voir les gens, de recompiler les interviews, de les retranscrire, d'en refaire des articles, de les mettre à la bonne taille. Voilà, ça nous a pris un temps fou. Je crois que Gwen a passé quasiment tout l'été à faire les entretiens, a passé les 3 mois suivants à les mettre sous la forme d'articles. Donc ça a pris quasiment juste 6 mois pour ce travail-là. Maintenant, effectivement, ce qui a pêché, c'est que on a lancé un autre projet à l'époque, qui est en fait de relancer Impact Hardware, c'est-à-dire le site originel, en prenant tout ce qui était relatif au matériel informatique et en le sortant sur un site à part, qui nous a pris du temps et qui nous a un peu détourné de l'écriture du magazine. On a des membres de l'équipe qui sont partis, notamment Gwen, après avoir écrit ses portraits, et Kevin un peu après, ce qui a forcément affaibli l'équipe et a demandé à ce qu'on travaille plus sur le site au quotidien. On reviendra en détail sur ce qui s'est passé dans le magazine numéro 2. On l'a promis à notre communauté. On reste un site qui est avant tout communautaire, donc on donnera plus de détails sur ce qui s'est passé mois par mois là-dessus. Mais voilà, maintenant, enfin honnêtement, on était à la bourre, quoi, tout simplement, et on s'en excuse parce qu'effectivement, il y a des gens qui pendant des mois nous ont demandé où est-ce que ça en était et on n'a pas su communiquer correctement où est-ce que ça en était, qu'est-ce qui pêchait et compagnie. J'ai eu la discussion avec Ulule il y a pas très très longtemps parce qu'on prépare le numéro 2. Pour nous, il y avait un truc qui était neuf, c'était le fait de communiquer par des canaux qui étaient aussi extérieurs au site. On est une petite équipe, on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire souvent les gens me disent mais votre site c'est quoi? C'est du WordPress? Je leur dis non, c'est un truc on l'a développé 100%, c'est nous, quoi. Voilà. Et on a toujours tenu à ça, c'est-à-dire que le back-end de Next Impact, le back-end d'Impact Hardware, le site en lui-même, tout est fait par une équipe technique. Donc, comparateur de forfait, c'est uniquement fait par nos équipes techniques. On a toujours tout fait nous-mêmes et on a toujours tout fait en interne le plus possible. Après, Slip, c'est nous qui l'avons entièrement développé, ce genre de choses. Donc, on a cette habitude de travailler en petite équipe et entre nous. Et avec le magazine, on a dû apprendre à communiquer aussi à l'extérieur, typiquement sur Ulule, en parallèle de ce qu'on faisait en communication sur notre blog. Il a fallu qu'on apprenne à travailler avec des gens de l'extérieur, parce que notre magazine, il n'a pas été fait par nous, il a été fait par des gens avec qui on travaille, qui s'occupent notamment de la maquette, du suivi de l'écriture et ce genre de choses. C'est un travail qui a été compliqué pour nous, parce qu'on n'en avait pas l'habitude, et on a appris à le faire. Alors, on l'a appris douloureusement, pour nos lecteurs aussi. Maintenant, je pense que pour moi, le principal, et malgré tout le temps que ça a pu demander et toute la déception qui a pu être celle des lecteurs pendant toute la phase d'attente, c'est que le résultat au final soit plutôt bon, que les lecteurs soient plutôt contents. Enfin, là, on voit depuis les expéditions mi-janvier, on a quasiment que des commentaires positifs de la part des lecteurs et on aurait été déçus d'avoir passé autant de temps et d'avoir autant souffert pour au final avoir quelque chose qui les déçoit, et on pouvait pas, parce que effectivement quand t'arrives avec, comme tu le dis, 1 an, 18 mois de retard par rapport au plan initial, tu peux pas te permettre d'avoir quelque chose qui satisfasse pas les lecteurs. Maintenant, je pense que voilà, la maquette du magazine est réussie, le magazine en tant que tel, je pense que les sujets ont intéressé les lecteurs, et pour moi c'est le principal. Voilà, après effectivement c'est passé ce qui s'est passé, ça a été une période qui était compliquée pour nous parce que c'est aussi une période où on a aussi dû faire avec l'affaire Quant, entre guillemets. On a dû faire effectivement face à deux défections dans l'équipe, en tout cas des journalistes qui sont partis pour d'autres aventures, et donc du coup voilà, pour nous ça a été humainement difficile. Au niveau du travail, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il fallait aussi qu'on travaille avec une équipe réduite et qu'on mène des gros projets en parallèle, ça a été compliqué. Maintenant, on s'en est sorti. Maintenant, on sait faire un magazine de A à Z. On a tout jusqu'au contrat postal. Tout ça, tout va bien. et c'est pour ça qu'on repart sur un numéro 2 et qu'on sait qu'on arrivera à tenir les délais correctement parce que, voilà, maintenant, on a la maquette, on a l'équipe, on a le savoir-faire. Et même s'il y a encore des petits ajustements qui sont nécessaires ici ou là, on sait qu'on peut faire ce genre de choses rapidement.
Donc, le numéro 1 a été distribué aux Bakers. Il y a moyen pour ceux qui ne l'ont pas soutenu le projet à temps de le réobtenir?
Oui, on a une boutique de goodies au départ sur laquelle vous pouvez acheter des t-shirts, des décapsuleurs, des jetons de caddie, tout ce que vous voulez à l'effigie de Next Impact ou d'Impact Hardware. C'est boutique.nextimpact.com et le magazine est en vente dessus pour le même prix qu'on l'a mis au Baker, c'est-à-dire 15 €. Et donc chacun peut l'acheter. Il nous en reste encore quelques exemplaires. On a dit dès le départ que ce sera un tirage unique, donc il n'y aura pas de retirage après celui-là. On en a imprimé plus que ce qu'on en avait vendu pour les Bakers, notamment pour ça, et il continue à bien partir. Pourtant, la boutique n'est pas spécialement mise en avant sur le site. En tout cas, on l'a un petit peu mis en avant au mois de janvier parce qu'on avait beaucoup de gens qui nous demandaient où l'acheter. Donc voilà, on a fait des papiers réguliers pour les inciter à trouver l'endroit, mais on continue à avoir des gens qui achètent le magazine. Et voilà, c'était aussi un de nos choix de ne pas faire de vente en kiosque et de pas mettre le doigt dans l'engrenage du kiosque ou de la distribution classique de la presse qui nécessite d'imprimer un minimum, d'avoir des gros tirages.
Presse Altis, là, ils ont fait vraiment les andouilles ces derniers temps, tuer toute la presse. Mais ça, on va pas y revenir, on en a déjà causé.
Ouais, c'est ça.
Donc, vous êtes parti pour faire les malins dans un deuxième numéro. Va falloir faire un choix au bout d'un moment, non? Vous voulez pas faire un métier sérieux?
Alors, je pense que Tonto Roger aimerait bien. Non, mais si tu regardes bien les contreparties, en tout cas les paliers qu'on avait mis sur le numéro 1, il y avait l'idée de faire un numéro 2 qu'on avait mis à un certain palier. Quand on a écrit le numéro 1 et quand on l'a fait, on s'est dit voilà, tout le travail qu'on a fait, tout ce qu'on a appris, ça aurait été dommage de jeter à la poubelle et de plus jamais en faire, ou alors de faire je sais pas un numéro 1 anniversaire tous les 3 ans ou quelque chose comme ça. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a un intérêt rédactionnel, enfin en tout cas pour la rédaction, à avoir la capacité d'écrire des choses sur le temps long ou des choses qui restent en dur. Voilà. Ça nous permet aussi éventuellement de travailler avec d'autres plumes qui sont pas forcément internes au site et qu'on peut lancer sur des sujets en leur disant voilà, on va sortir un magazine à telle date, si vous avez une enquête qu'elle vous intéresse, que vous voulez la financer, vous venez nous voir, on regarde à comment on peut financer ça et on la mettra dans le magazine parce que l'économie du magazine est un peu différente de celle du site. Et donc du coup, pour nous, l'idée elle est là aussi, c'est-à-dire de pouvoir travailler avec des plumes un peu diverses, ce qu'on n'a pas pu faire sur le numéro 1, parce qu'en fait, un des problèmes auxquels on a dû faire face, c'est qu'on s'est aperçu, parce que, comme tu l'expliquais tout à l'heure, on a tendance à être très verbeux sur le site et à écrire long, ce que je peux pas faire dans un magazine. Et en fait, au début, on s'est dit, oh, on n'arrivera jamais à remplir 100 pages. Et en fait, on en a rempli 140, et on a dû on a dû mettre de côté une bonne partie de ce qu'on avait écrit pour le magazine, qui a été diffusé depuis sur le site ou ailleurs, ou alors qu'on a pour l'instant pas publié. Il y a notamment des articles qu'on a mis au show pour les réutiliser soit pour d'autres magazines ou les publier sur le site. Au final, on est en train de voir exactement ce qu'on peut faire avec cette matière-là. Du coup, on n'a pas pu travailler autant avec des journalistes tiers qu'on aurait pu parce qu'on a écrit, nous, sur les portraits qui ont été une partie assez appréciée du magazine ou l'histoire du site, ce genre de choses. Enfin, tu vois, la copie privée, la bataille à deux pistes, c'est des choses qui sont fondatrices de ce qu'on est et de ces 15 années de web. Donc, on pouvait pas passer à côté de ça et se dire, bon, bah, voilà, pour mettre une enquête en plus, on va retirer quelque chose, voilà. C'est quelque chose qu'on a dû mettre de côté, mais qu'on veut développer sur le magazine et effectivement, pour avoir l'équipe qui continue à travailler en bonne partie sur le site et à avoir des fois des plumes extérieures qui nous aident sur le magazine. Et peut-être même inversement, des fois, avoir des plumes extérieures qui écrivent sur le site pendant que nous, on s'attarde un peu sur le magazine. Donc, ça peut nous permettre de nous développer. Et donc, je pense que ça peut être, c'est un projet qui est important pour nous pour ça. C'est-à-dire de réussir à toucher un public un peu différent, d'écrire des choses un peu différentes et de travailler avec des équipes un peu différentes pour l'intérêt de nos lecteurs et de ceux qui nous suivent. Sachant que l'idée est de faire comme ce qu'on a toujours fait. C'est-à-dire que nos articles sont en accès libre un mois après leur publication, même s'ils sont réservés aux abonnés dans un premier temps. Le magazine sera pareil. On finira par le diffuser à tous. Alors, soit, parce qu'il y a des articles qu'on va diffuser sur le site dans un second temps, au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, on publiera les PDF des magazines en accès libre à tous. Au bout d'un certain temps, pas tout de suite, mais l'idée c'est de faire ça et que ce qu'on a figé dans ce magazine-là puisse être accessible librement par tous au final, sans DRM.
David Legrand, merci beaucoup. Comme l'interview dure 1h20 dans sa version longue, on mettra le lien sur le site de l'émission cpu.pm pour ceux qui nous écoutent en radio, bien évidemment. David, merci beaucoup et bonne journée. Et du coup, ben, je t'ai bloqué du temps qu'il va falloir que tu rattrapes autrement. Je suis désolé.
C'est pas grave, mon jardin peut attendre.
Merci.
Merci.